SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Eh bien, on est avec Eric Vargiolu. On s'était déjà parlé, Eric, l'année dernière. Je ne pensais pas vous revoir cette année sur un Dakar. Alors, même si vous ne le faites pas officiellement, vous êtes quand même là sur un 48e Dakar officiellement.
Oui, enfin, je suis là, je suis juste témoin. Je n'ai même pas apporté un appareil photo. J'ai des gens qui m'ont succédé, que je connais bien. Je ne vais pas dire que je les ai formés, mais ils ont été à côté de moi pendant des années. Ils sont prêts à prendre la relève. Moi, j'en ai fait, 48. J'ai fait les Abidjani, j'ai fait aussi beaucoup d'autres choses. J'ai 75 ans, hein, donc à un moment, faut laisser la place.
Vous ne les faites pas, hein ?
Oui, c'est gentil. Mais, à un moment, j'avais pas vraiment envie, mais je sentais qu'il fallait que j'arrête et puis que fallait que ça continue. Il faut du sang nouveau quand même. C'est vrai qu'ils maîtrisent certains aspects techniques mieux que moi. Ça plus le reste, et ils ont été formés sur le terrain et ils seront très bien. Et j'ai vu leur travail, il n'y a rien à dire.
Alors pour résumer une vie en quelques minutes, mais votre travail au Dakar, il a largement évolué au gré des années. Vous avez évolué avec cette épreuve. Parlez-nous un petit peu de tout ce que vous avez pu faire sur le Dakar, et on n'a que quelques minutes.
Hein. Oui, oui. Non, j'ai tout fait, j'étais dès le début. J'ai travaillé avec les outils qu'on avait à l'époque, et qui étaient des boîtiers argentiques avec des films 36 vues qu'on changeait dès qu'ils étaient finis. C'était d'ailleurs un des problèmes. On faisait du noir et blanc et de la couleur. Il fallait absolument pouvoir rapatrier les films, et souvent c'était à l'occasion d'évacuations sanitaires. Donc c'était étrange. On jetait le sac de photos quasiment sur le ventre du mec qui était sur la civière, tu vois. Mais bon, c'était comme ça, et on est arrivé à envoyer deux envois à Paris, au bureau. Ils attendaient tous les pellicules. Ce qu'on redoutait, c'était qu'il y ait eu un problème technique sur les boîtiers, parce que aujourd'hui, on est dans un confort absolu de travail. On est en live, on regarde ce qu'on fait, ça va, on passe à autre chose, ça va pas, on recommence. Avant, on se ceinture, bretelle et tout, on faisait 10 fois le même truc en espérant qu'elle soit réussie. Il n'y avait pas les mises au point automatiques, il n'y avait rien de cette technologie, et on ne voyait pas ce qu'on avait fait. On travaillait en aveugle. Aujourd'hui, on travaille en live, et c'est un confort de travail qui en même temps participe à ce qu'on soit plus créatif, parce qu'on va oser des choses qu'on n'aurait jamais osé, tu vois, des effets de lumière, des téléobjectifs, des trucs. Donc on a énormément progressé, et moi je trouve que c'est formidable qu'on profite de ça. Mais qu'est-ce qui était comme il y a 50 ans? Il n'y a plus rien qui était comme il y a 50 ans.
Absolument, c'est clair. Aujourd'hui, c'est une date un peu spécifique. C'est les 40 ans du décès, de l'accident d'hélicoptère qui a pris la vie de 5 personnes, notamment Thierry Sabine et Daniel Balavoine. C'est les deux noms dont on se rappelle. Vous y étiez. Est-ce que je peux me permettre de vous demander comment vous avez vécu ça, ce moment, et surtout cette journée d'après, la continuité de ce Dakar après?
Alors, moi, oui, je m'en souviens. Enfin, j'étais dans la spéciale. J'étais parti le matin ou la nuit, je ne me souviens plus, comme on fait toujours. C'est-à-dire qu'on partait sur la piste avant tous les concurrents, puisque quand ils allaient être sur la piste, il fallait qu'on soit en place. Comme ils roulaient beaucoup plus vite, il fallait déjà qu'on soit en place pour prendre les photos. Et en fait, j'étais précisément au Mali, dans les falaises de Bandiagara, qui est un endroit assez typique, où on attendait que les procureurs viennent. Puis à l'époque, il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de téléphone, on n'avait rien, on était isolés, hein, complètement. Et donc on est là, on sait à peu près quelle heure les voitures vont passer. Rien, il ne se passe rien, moto, tout ça, rien. Là, on commence à se poser des questions. Et au bout d'un moment, il y a une voiture médicale qui passe, qui s'arrête et qui nous dit il y a eu un accident, le rallye est arrêté. Et alors je ne saurais pas te dire s'ils nous disent il y a un accident d'hélicoptère, pardon, et Thierry est mort. Je vais voir, mais gros accident. De toute façon, il y avait un mot de code qui existait, c'était le pire est arrivé. Quand cette phrase serait prononcée, on savait que c'était vraisemblablement un accident mortel qui aurait touché la direction de course, en l'occurrence Thierry Sabine. Donc, au fur et à mesure, alors donc on fait demi-tour, on rentre, le rallye est suspendu, et on repart en continuant, en se posant des questions. Thierry Pula, bon, c'est terrible, on ne connaît pas tous les détails, tu vois. Évidemment, qu'est-ce qu'on va faire demain? On ne sait pas, on n'était pas dans les secrets de l'organisation. Donc on rejoint le bivouac et suivant. Et là, on apprend que le rallye va continuer. C'était Patrick Verdois à l'époque, qui était le numéro 2 de Thierry Sabine, qui connaissait et était préparé à reprendre. Alors, reprendre, c'est préparer, c'est facile. Est-ce qu'il va être capable de le faire? Parce que c'est pas évident. Et donc, te dire si on est reparti le lendemain ou s'il y a eu une journée de césure, je me souviens pas. Mais le rallye est parti et a continué et c'était comme ça, c'était prévu et c'était prudent que ça soit prévu.
C'est un moment qui vous a hanté un petit peu, vous y avez repensé pendant longtemps, ce moment où vous l'avez appris et l'impact que ça a eu, on en parlera dans quelques instants, sur le rallye jusqu'à aujourd'hui.
Non, je peux pas dire que ça a eu un impact, c'est-à-dire malheureusement à l'époque l'accident définitif, il faisait partie du rallye si tu veux. C'est triste à dire, mais c'était comme ça. Moi, je fréquentais le milieu auto et moto. Malheureusement, j'étais témoin de nombreux accidents. Et la vie continue, le sport continue. C'était le souhait. Et moi, j'ai beaucoup fréquenté les pilotes moto. Beaucoup sont décédés à l'époque. On avait le même âge, on était ensemble. Et j'en ai vu un qui est survivant il n'y a pas longtemps. Il me dit, on nous traitait de fous, qu'on voulait mourir. Il me dit, mais nous, on était passionnés, on ne voulait pas mourir. Mais bon, ça faisait partie du jeu. C'était dans le contrat. Donc, il dit, c'est regrettable, mais je me souviens d'avoir parlé avec Patrick Ponce, qui était un grand pilote français. On était assez copains. Je l'avais connu quand il commençait en Coupe Kawasaki. On a parlé de la mort. Un jour, il m'a dit, mais écoute, si ça doit arriver, ça arrive. Je m'éclate tellement, je suis tellement heureux. Ça fait partie du contrat. Donc, la mort, malheureusement, était présente dans l'événement et tu ne peux pas... rester sur la mort de Thierry Sabine. On est dans la course, on fait comme les autres, on continue, puis tu es un directeur de course et puis tu reprends tes habitudes et puis ça t'empêche pas d'avoir des pensées, des regrets ou pas, etc. Mais ça continue, ça c'est la course automobile. Hein.
Il y a l'ADN de Thierry Sabine quand même qui est encore vivant aujourd'hui dans ce qu'il avait pu faire dans un Dakar qui est complètement différent. Vous l'avez dit, la technologie est différente, peut-être l'esprit même de course est différent. Les coureurs vont beaucoup plus vite, beaucoup peut-être moins un peu sur la réserve comme à l'époque. Mais on ressent quand même un peu encore une ADN quelque part de Thierry Sabine dans ce rallye.
Le Dakar, c'est une épreuve difficile. Quand on est sur le terrain... On sait ce que c'est. C'est des moments, et ça, la difficulté du terrain, elle ne change pas, hein, elle est toujours là. Alors, les véhicules sont de plus en plus performants, les outils de navigation. Moi-même, je partais avec un roadbook, il y avait 100 pages avec des dessins, une boussole que j'achetais au vieux campeur à 50 balles, et puis on roulait comme on pouvait. Maintenant, ils ont des outils qui facilitent, mais quand tu es dedans, il faut les faire, les 500 km à se faire tabasser et à se perdre, etc. Il faut les faire. Donc, tu ne peux pas comparer, mais pour moi, ça reste une épreuve difficile. Peut-être moins, parce qu'effectivement, on a des outils, mais c'est un engagement. Hein. 15 jours de course, les mecs, ils y vont. Alors, l'esprit du Dakar, la structure du Dakar, le profil du Dakar existe toujours. Bien sûr, c'est peut-être... Enfin, je ne peux pas juger sur un ordre de valeur, si tu veux.
Et juste pour conclure cet entretien, 49 pour vous, ça donne quand même vachement envie d'être là pour la 50e ou pas?
Oui, enfin, j'ai presque fermé le dossier, si tu veux, parce que je te dis, il est bien repris, il va continuer.
Ouais, mais le passionné en vous, oui, le passionné en vous.
Bah, c'est pour ça que je suis venu 3-4 jours, si tu veux, pour... ça me manque un peu, c'est vrai. Mais je vais arriver à m'en passer. Mais même, j'ai pas besoin de m'en passer. Si j'ai envie de revenir, je reviendrai. Je vais faire comme j'ai envie. J'ai eu cette liberté toute ma vie. C'est un merveille. Si je vais encore continuer.
C'est un plaisir de vous reparler encore. Merci.
Moi aussi.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.